Radio Classique, les spécialistes.
Voilà, nous allons commencer par Jean-Éric Brana, spécialiste des questions donc américaines. Jean-Éric, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Au fond, la réaction de Donald Trump, nous allons commencer par ça avant de parler de Carlos Ghosn et du procès Weinstein aux États-Unis, a été relativement mesurée après les missiles envoyés par l'Iran. Est-ce qu'on peut savoir quelle est l'interprétation que vous avez en fait ce matin sur notre antenne, celle de Radio Classique ?
Alors, en réalité, Donald Trump faisait face à des critiques très virulentes sur le plan intérieur. On lui demandait effectivement de rabaisser le ton, d'aller vers la désescalade, et les démocrates étaient vent debout face à l'assassinat ou à la disparition de Soleimani. En changeant de ton, Donald Trump a pris tout le monde à contre-pied, puisque on s'attendait justement à ce qu'il continue à monter le ton, et Donald Trump, encore une fois, fait le contraire de ce qu'on pense. Donc là-dessus, il est assez logique avec lui-même.
Deuxième question et dernière question, Jean-Éric Brana. On a parlé des fameux 52 cibles symboliques des 52 otages américains. Donc, est-ce que vous pensez que tout ça est oublié quand il a la dernière fois parlé de la puissance militaire américaine incomparable ?
Non, rien n'est oublié, puisque rien en réalité n'est arrêté sur le terrain. Les tensions sont toujours là et tout peut redémarrer très rapidement. En réalité, c'est comme après un incendie, les braises couvent toujours. Donc non, rien n'est oublié.
Est-ce que ça veut dire qu'au fond, l'Amérique est dirigée par un homme seul, dont l'administration ne fait que le suivre ?
Ah, je pense pas. Je pense que ça, c'est un récit qui est donné depuis un moment, mais on voit que les Républicains étaient quand même très solidaires de Donald Trump, et autour de lui, l'état-major était également sur le pont.
Merci mille fois, donc Jean-Éric Brana, grand spécialiste des questions américaines. Et donc, intervention après cette déclaration de Donald Trump, plutôt modérée, après les frappes de l'Iran qui n'ont fait aucune victime. Avec vous, Dimitri, nous allons revenir sur cette conférence de presse de Carlos Ghosn. Au fond, c'est très simple, mais c'est très compliqué à la fois.
Oui.
C'est-à-dire que ça a été très long, extrêmement détaillé. Il est déterminé et assez implacable. D'après vous, qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui ne l'est pas ?
Ce qui est clair, c'est d'abord sa détermination à faire valoir d'une part ses droits auprès de Renault, puisque en fait il est en litige, mais pour une question de retraite, de droits. C'est vrai qu'on a parlé de sa démission l'année dernière, de sa démission totale de Renault, alors que lui dit non, j'ai seulement démissionné de certains mandats, mais j'ai pas du tout démissionné. Il y a ce qu'il dit sur l'alliance Renault-Nissan, c'est très intéressant parce que c'est vrai que les deux groupes vont très mal aujourd'hui, alors qu'ils se portaient plutôt bien, mais quand même le verre était dans le fruit avant sa chute, sur le plan en tout cas industriel. Et puis, il y a tout ce que Carlos Ghosn n'a pas dit. Alors, il y a le côté un petit peu people qui intéresse tout le monde sur la manière dont il a fui le Japon. Là, il dit tout le monde enquête dessus, on finira bien par découvrir comment j'ai fait. Et là, je laisse finalement les curieux faire leur travail.
Ouais, il a même dit, j'en parlerai peut-être dans 20 ans.
J'en parlerai peut-être dans 20 ans, sur Netflix peut-être. Alors pourtant, il s'est expliqué sur cette rumeur qui lui prêtait d'avoir vendu les droits de son histoire à Netflix. Apparemment, ça n'est pas le cas. Et puis, il y a tout ce qu'il n'a pas dit, Carlos Ghosn. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas dites, alors qu'il a quand même parlé longtemps, sur toutes les affaires qu'il poursuivent. La liste des affaires, elle est ahurissante. Si vous regardez uniquement sur le volet français, 5 affaires, sur lesquelles enquête le parquet de Nanterre, ainsi que le parquet financier. Je vais vous en faire la liste rapide. Il y a l'affaire d'abord du château de Versailles, de son mariage, prestation pour lequel qui a été honorée par Renault, à tarif très préférentiel, en vertu d'une contrepartie à un mécénat financé par Renault pour la rénovation d'une grande salle du château de Versailles. Il y a une autre affaire liée à l'anniversaire des 15 ans de l'Alliance, c'était en 2014, qui aurait tourné à une sorte de fête privée. Et puis, il y a des affaires il y a l'affaire aussi de l'embauche d'Alain Bauer, Rachida Dati, par l'alliance Renault-Nissan. On se demande si c'est pas là des emplois fictifs. Les juges français sont en train de travailler dessus. Et puis, il y a deux affaires qui intéressent la justice française, qui recoupent un peu d'ailleurs certaines accusations portées par les Japonais à l'encontre de Nissan. Il y a d'abord l'usage fait d'une partie de l'argent de l'alliance RNBV, vous savez, le siège qui se trouve aux Pays-Bas. Des sommes d'argent assez conséquentes. On parle de plusieurs millions d'euros qui sont liés à des dépenses suspectes, qui auraient servi par exemple à financer des ONG libanaises ou bien à assurer une forme de rémunération complète à Carlos Ghosn. Là-dessus, les justices françaises et japonaises travaillent chacun de leur côté. Et puis, il y a cette affaire du sultanat d'Oman. Carlos Ghosn s'est-il servi de son poste de PDG de Nissan pour faire couvrir par Nissan des pertes personnelles qu'il avait eues en aidant finalement un ami qu'il avait là-bas à Oman, qui était en fait le représentant des marques du groupe sur place. Vous voyez, c'est quand même assez tentaculaire. Sur là-dessus, Carlos Ghosn, sur les affaires, nie complètement. Il dit « je n'ai rien à me reprocher, aucune faute, ni aucune infraction. Il a produit des documents, il a projeté des documents, mais ceux qui connaissent l'affaire ont dit « c'est quand même dur de se prononcer à la lumière de ce qu'il a fait ».
Les documents, on les voyait quand même, pour ceux qui ont suivi la conférence de presse, de très très loin. Ce qui ne veut pas dire que ces documents soient inexistants, autrement ils ne les auraient jamais montrés, parce qu'ils vont sortir un peu partout.
Alors je ne suis pas juge, je ne suis pas enquêteur, mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il a montré des documents qui ont été signés par plusieurs personnes au sein du groupe Renault-Nissan. On sait qu'il était extrêmement puissant, tout puissant, dictatorial, disent même les Japonais, au sein de l'entreprise. A-t-il forcé la main sur certaines signatures? On ne le saura peut-être jamais. En tout cas, l'affaire est loin, loin d'être terminée. Pour Carlos Ghosn, les Japonais lui ont dit « Si vous avez des documents, des preuves de votre innocence, apportez-les-nous au Japon, nous n'attendons que ça, nous souhaitons vous parler, Monsieur Ghosn. »
Voilà, et donc l'accusation principale qu'il a portée concernant le Japon, qui est furieux ce matin, c'est d'une collusion totale entre Nissan et ses dirigeants et le procureur qui a mené donc l'enquête, d'où l'explication donc de sa fuite. Nous allons changer totalement de domaine, il est 7h44 sur l'antenne de Radio Classique, pour revenir non pas sur le procès Weinstein en lui-même qui a commencé il y a quelques jours, donc aux États-Unis, mais pour, l'environnement, car effectivement, de cette affaire, l'environnement qui est à base de documentaires, de témoignages et d'une passion américaine, autour de cette affaire Harvey Weinstein.
Oui, effectivement, alors que c'est ouvert lundi, ce qui est le procès de l'année en Amérique, on peut voir en VOD ce documentaire, enfin, dirais-je, ce documentaire accablant d'Ursula McFarlane qui était sorti en salle en août dernier, qui s'appelle L'Intouchable, et qui raconte donc l'histoire du producteur déchu à travers des images d'archives et puis des entretiens avec les journalistes concernés, avec son assistante et puis surtout en donnant la parole aux victimes. Des témoignages très forts qui décryptent donc les mécanismes de l'abus de pouvoir. Abus de pouvoir qu'on ne peut évidemment pas dissocier du talent, je pèse mes mots, du génie même de Weinstein. C'est une success story à l'américaine qui nous est racontée. C'est un gamin ingrat, un petit producteur qui va vraiment se hisser au sommet à force de volonté et devenir le faiseur d'Oscars d'Hollywood. 300 nominations aux Oscars sur la carrière d'Harvey Weinstein, c'est absolument gigantesque. Un Oscar par an pendant 10 ans et des films évidemment à faire pâlir d'envie n'importe qui. C'est Tarantino, c'est Scorsese. Lui, c'est un des plus gros producteurs de cinéma, mais c'est surtout un producteur de cinéma d'auteur indépendant. Et à ce titre, il n'est pas seulement puissant, il est aussi admiré, courtisé, fascinant et puis craint. Et à mesure que son succès enfle, c'est vrai que grossit son influence, son réseau qui est à la fois politique et médiatique. Et donc il y a cette scène dans ce documentaire.
Soutien des démocrates.
Voilà, et qui est assez saisissant. Il est devant des journalistes qui viennent évidemment l'interpeller et il leur dit « Heureusement que dans cette putain de ville, le shérif, c'est moi ». Ça en dit quand même long sur son influence. Il n'est jamais inquiété par les médias, même dans ses mouvements de violence, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez...
Un bulldog.
Voilà, c'est un bulldog, c'est exactement ça. Et c'est presque plus dangereux de lui résister. Il a le pouvoir, il a l'argent pour ça. Et il y a quand même quelque chose aussi à voir avec Carlos Ghosn que vous évoquiez dans ce mécanisme. Et donc, en fait, ce documentaire, c'est le portrait d'un gangster, c'est un documentaire sur la fabrique d'un monstre, et puis sur sa chute. Alors bon, ça part des révélations du New York Times, donc on s'en souvient, en octobre 2017, et puis sa vie qui se désintègre, sa femme le quitte, il est évincé de sa propre société, 93 femmes sur un mois vont témoigner contre lui. Bon là, dans le procès, on n'en a que 3 qui sont en procès contre lui, mais bon, évidemment, ces témoignages ont été accablants. Donc ce documentaire, c'est une plongée dans la saga la plus explosive du cinéma, je dirais, mondial, et malgré un peu des violons, des trémolos, il y a quand même beaucoup de force et voilà, d'un point de vue féminin en tout cas, quand on voit ces femmes qui parlent, on est extrêmement touché. C'est tout à fait terrifiant. Je ne suis pas juge non plus, comme disait Dimitri, il faut que la justice se fasse et il est entre de bonnes mains, mais c'est vrai qu'on est frappé par la différence entre ce qu'on voit dans ce documentaire et puis les images de Weinstein très affaibli qui s'est présenté au procès avec un déambulateur. Vous avez vu ça, c'est assez amusant.
Il est 7h47 sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec le journal imprévisible de Renaud Blanc.